Voilà, chers amis, merci d'être là pour notre cours de psychologie et spiritualité. Alors, il y a dans cet auditoire à peu près 180 places assises, mais je crois qu'il n'y a pas encore 150 personnes parce qu'on a distribué des feuilles. Il en reste encore, donc nous n'avons pas atteint les 150. Nous verrons pour la suite si c'est ici que nous restons, si nous émigrons. Mais en principe, donc, ça a l'air de pouvoir marcher jusque maintenant. Alors, vous avez reçu deux feuilles, même trois, une pour l'inscription, mais je n'en parle pas. Une pour l'inscription pour les étudiants libres. Je vous demande donc de la remplir et de la mettre dans le casier bleu qui se trouve là, isolé. Alors, il y a une feuille de route avec les petits triangles. Ça, c'est ma partie. Et puis, la feuille derrière, c'est la partie de Madame Streuf. Nous allons chaque fois parler tous les deux. Alors cette fois-ci, c'est moi qui commence, mais je crois que plus habituellement, ce sera Dominique qui commencera. Nous essaierons chaque fois de diviser en deux parties égales, à peu près égales, enfin ça dépendra un peu des thèmes. Mais disons, donc on a un timing qu'il faut bien tenir hein, pour que chacun puisse parler sa partie. Alors à 9h30, on s'arrêtera, mais après une petite pause de 5-6 minutes, ceux qui veulent peuvent encore rester une demi-heure pour continuer à poser des questions. Donc les questions, toutes les questions sont les bienvenues au fur et à mesure des cours, de celui-ci et des suivants. Pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas eu l'occasion de suivre un cours, le cours sera mis... Ne me demandez pas des détails techniques, hein, mais le cours sera mis sur le site de l'IET 15 jours après le cours. Donc avec un retard de deux cours, si on veut. C'est pourquoi il y a un enregistrement ici, je vois qu'il y en a même un second à côté. Second, c'est un pirate, mais enfin, soit. Donc voilà, pour ceux qui doivent éventuellement sauter une séance, il y a moyen de la rattraper par l'audio. Ok ? On essaiera de perfectionner peut-être avec de la vidéo et tout, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Alors, ce cours-ci, nous avons déjà donné un cours semblable il y a 10 ans, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Depuis lors, nous avons travaillé, nous avons développé de nouveaux thèmes, et cette fois-ci, nous allons vraiment tout miser sur la question des relations. Psychologie et spiritualité, les enjeux relationnels, aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau spirituel. Les relations entre nous, les relations qui existent entre les psychismes, puisqu'il s'agit de psychologie, entre les esprits, puisqu'il s'agit aussi de spiritualité. Alors ce tout premier cours, bien sûr, va ressembler peut-être un peu au précédent et à tous ceux que nous donnons. Et d'ailleurs... vous savez qu'il y a un livre qui a été publié avec déjà une série de leçons. Et donc c'est de nouveau, si on veut, un peu la base qui se trouve au début de ce livre que je vais vous donner rapidement parce qu'il faut que tout le monde soit un petit peu, je dirais, au même niveau hein, pour la question des fondements anthropologiques. Moi, je parlerai surtout en tant que théologien, philosophe aussi. Bon, je suis psychologue de formation, mais je ne pratique pas la psychologie de manière habituelle. Dominique parlera la partie vraiment psychologique. Elle est psychiatre, elle travaille toute la journée à cela. Ce n'est pas mon occupation principale, la mienne. Moi, je suis plutôt en théologie, avec évidemment les fondements philosophiques. Alors voilà, le point de vue que je vais vous donner, c'est le point de vue d'un philosophe théologien qui étudie l'anthropologie, ça veut dire l'homme, et qui se demande qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Puisque notre cours s'intitule Psychologie et spiritualité, dans un premier temps, je vais essayer de faire la différence entre ce qui est psychologique et ce qui est spirituel. Alors je le ferai non pas en essayant de définir l'un et puis l'autre, mais en proposant toute une structure, toute une dynamique de la personnalité humaine, parce que c'est une définition trop difficile à donner en une phrase. Donc la définition, eh bien, au fond, c'est le premier triangle que vous avez là sur votre feuille. Vous voyez ce triangle. C'est toute une réflexion sur l'être humain en tant qu'il est, qu'il est composé de différentes puissances, de différentes facultés, etc. C'est un être composé, il est corps, il est esprit. Hein. Mais on peut aller un peu plus dans le détail que simplement dire qu'il est corps et esprit. Et je propose les quatre dimensions anthropologiques de l'être humain. Alors j'en propose quatre, mais bien sûr, l'être humain est d'abord un. Il est d'abord un. Et quand on vit spontanément et de manière simple et heureuse, eh bien on n'a pas besoin de décomposer les parties en soi pour savoir qu'est-ce qui fonctionne maintenant. Nous fonctionnons toujours de manière intégrale, globale. Mais lorsqu'on se met à étudier un petit peu et lorsqu'on veut éventuellement résoudre des problèmes, eh bien avoir une structure plus détaillée n'est pas inintéressant. Alors cette structure, je la puise chez beaucoup d'auteurs que j'ai lus et que j'ai un peu combinés. Ces auteurs, c'est à commencer par Saint Paul, Origène, Saint Ignace, Kant, et même, par exemple, Jean-Yves Leloup, lors de ses conférences, eh bien, commence souvent par proposer cette structure. En tout cas, je l'ai entendu une fois dans une conférence le faire. Vous voyez qu'il y a donc quatre dimensions, le corps, le psychisme, la raison, et l'esprit, pneuma. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai laissé le mot grec là, mais voilà, ça fait un peu plus spirituel peut-être. Hein. Le pneuma, c'est l'esprit, le mot grec. Le corps, le psychisme, la raison, et la raison, je vois deux dimensions à la raison, l'intelligence et la volonté. On pense souvent que la raison, c'est l'intelligence, on n'a pas tort, mais la volonté, pour moi, est aussi une faculté rationnelle. Les animaux n'ont pas de raison et donc ils n'ont pas de volonté. Alors bien sûr, ils ont des mécanismes pour agir, hein, mais la volonté, c'est réfléchir, c'est délibérer, c'est prendre une décision, c'est la mettre à exécution. Ça demande d'être raisonnable. C'est une faculté proprement humaine et que je mets à l'intérieur de la raison. Intelligence plus volonté, c'est la raison et le pneuma. Alors je crois que l'introduction de cette troisième dimension entre le psychisme et le pneuma est un peu une originalité de ma part, au sens où beaucoup d'auteurs eh bien, prennent trois dimensions et oublient l'une de ces trois dimensions, de ces quatre dimensions que j'ai mis là. Donc pour moi, la raison est vraiment ce qui fait le lien entre le psychisme et l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le corps. Eh bien, une fois je disais le corps, c'est facile, tout le monde sait ce que c'est. Alors on m'a objecté, ben non, c'est le plus difficile de tout. Bon, c'est vrai aussi, hein, c'est vrai aussi, mais je ne vais pas m'étendre sur la question du corps. Le psychisme, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les émotions, les sentiments, le ressenti. La raison, évidemment, c'est lorsqu'il y a davantage de réflexion humaine, à partir bien sûr de sentiments, etc. Et l'esprit, justement, qu'est-ce que c'est l'esprit ? Eh bien, j'ai cette définition de l'esprit comme quelque chose qui vient au-delà, au-dessus, hein, des trois dimensions précédentes, et qui est proprement spirituel. Bon, alors c'est une tautologie jusque maintenant, hein, qui est proprement spirituel au sens où c'est vraiment la faculté qui nous met en contact avec Dieu. Voilà ce que j'entends par esprit. Dans d'autres systèmes philosophiques, on peut dire que l'esprit égale l'intelligence, etc. Mais pour moi, hein, l'esprit, c'est cette faculté humaine. Dieu nous a créés non seulement intelligents, mais il nous a créés avec un esprit, ça veut dire avec la possibilité de recevoir quelque chose de l'Esprit Saint, de Dieu qui est esprit. Alors j'imagine, c'est un peu imaginé, imagé évidemment, eh bien que sur cette montagne, l'esprit c'est le sommet et Dieu est dans la nuée. L'Esprit Saint, c'est la nuée qui entoure ce Sinaï. Et l'Esprit Saint et l'Esprit humain sont en communication. Dieu prend l'initiative de vouloir parler à sa créature humaine, en faisant d'elle non seulement un être intelligent, mais aussi un être spirituel, ça veut dire en contact avec Dieu. Alors bien sûr, Dieu peut parler aussi à travers l'intelligence, à travers le psychisme, à travers le corps. Mais je dirais que l'esprit est vraiment cette faculté de l'homme qui couronne, hein, l'être humain, en étant pour lui comme vraiment l'ouverture à la transcendance, à Dieu. Alors celui qui croit, évidemment, dit que c'est Dieu. Je pense que ceux qui ne croient pas peuvent aussi avoir une vie spirituelle. Mais on a une vie spirituelle lorsque quand même on croit qu'il y a des valeurs transcendantes, quelque chose qui nous dépasse. Si on est purement rationaliste, qu'on croit que l'homme se réduit à son intelligence et qu'il n'y a rien au-delà de l'intelligence, on n'est pas, je crois, un être spirituel. En tout cas, on prétend ne pas l'être, ou on croit ne pas l'être. Je pense que les rationalistes peuvent prétendre qu'il n'y a pas de vie spirituelle. Pour ma part, évidemment, je me dis que c'est malgré eux ou à leur insu qu'ils le sont quand même, à certains moments, pas toujours. Alors, ces quatre dimensions communiquent entre elles. Alors ça, c'est très important. C'est important pour l'unité de l'homme. C'est une unité dynamique. Et il y a une influence qui va de bas en haut et de haut en bas. De bas en haut, eh bien, le corps, évidemment, a des retentissements sur le psychisme, sur l'intelligence, sur l'esprit. Si vous êtes malade, eh bien, votre intelligence est un peu troublée. Plus difficile d'étudier quand on est malade. Ah, mais on pourrait dire, mais l'intelligence, elle est spirituelle ou elle est immatérielle. Non, elle est liée au corps. Mais votre psychisme aussi peut troubler votre intelligence. Si vous êtes de mauvaise humeur, si vous êtes inquiet pour quelque chose, vous n'arrivez pas à faire votre travail intellectuel. Éventuellement, vous n'arrivez pas à prier non plus. Parce que vous priez avec votre esprit, avec tout votre être, mais si le corps est malade, si le psychisme est troublé, etc., eh bien l'intelligence et l'esprit s'en ressentent. Il y a donc une synergie qui va de bas en haut, mais aussi de haut en bas. Si vous êtes malade, mais que vous comprenez votre maladie, que vous connaissez les symptômes, que vous savez ce qu'il faut faire dans tel et tel cas, eh bien, grâce à votre intelligence, vous allez pouvoir soigner votre corps. Même chose avec le psychisme. De même, la prière, peut-être, eh bien, peut vous aider à calmer vos sentiments, peut-être même à guérir votre corps. Votre esprit, comme vie spirituelle, votre foi en Dieu peut aussi éclairer votre intelligence. Alors pas peut-être pour faire une équation, mais pour faire des raisonnements de type plus élevé, comme de la philosophie, de la métaphysique, etc. Là, le philosophe peut éventuellement recevoir quelque chose de son esprit qui ouvre davantage son intelligence. C'est ce que je crois en tout cas. Et donc il y a vraiment cette communication de bas en haut et de haut en bas. Là, vous voyez que j'ai mis en plus, dans le psychisme, une ligne ondulée, avec conscient et inconscient. C'est que le psychisme, donc les émotions, les sentiments, etc., sont en partie, tous ces sentiments sont en partie conscients, en partie inconscients. Et c'est parfois difficile de mettre une limite. C'est pourquoi c'est ondulé. Parfois, peut-être que ça peut descendre, si on est vraiment serein, calme, l'intelligence comprend mieux les sentiments. Peut-être que si on est très troublé, eh bien, cette mer monte, et puis les vagues sont plus agitées, et plus envahissantes, et viennent comme troubler l'intellect. Alors, pour montrer l'utilité de cette quadripartition, je propose au point 2 quelques applications possibles des quatre dimensions anthropologiques, par exemple à une définition du bien et du mal. Souvent dans les discussions, on dit oui, le bien, ceci, le mal, cela, etc. Bon, je crois que il faut vraiment être plus précis si on veut dire des choses plus pointues, plus intelligentes. Alors regardez avec la dimension physique, psychique, intellectuelle, volontaire, spirituelle. On peut définir le mal et le bien de manière, me semble-t-il, plus précise. Alors quand on a ça en tête, je crois qu'on a de meilleurs outils pour réfléchir à nos situations. Alors c'est écrit un peu petit, mais j'espère que vous avez quand même de bons yeux. Voilà, pour le mal, au niveau physique, qu'est-ce qui est le mal? C'est la maladie, la blessure, la mort, évidemment. Et qu'est-ce qui est le bien? C'est la vie, c'est la santé. Alors, c'est un bien et un mal en soi, mais je dirais que ça touche surtout le corps. Et par répercussion toutes les autres dimensions, bien sûr, mais si on veut mieux définir ce qu'est le bien et le mal au niveau psychique, je dirais qu'au niveau psychique, ce qui est mal, c'est le dysfonctionnement. Alors ça peut être une maladie mentale, ça peut être un complexe, qu'est-ce que je sais, mais disons de manière globale, c'est un dysfonctionnement. Et le bien, eh bien, c'est un bien-être psychique. On se sent serein, calme, en harmonie avec soi-même, avec les autres. Ça, c'est le bien à un niveau psychique. Mais bien sûr, ce n'est pas le but ultime de la vie d'être dans le bien-être, hein, et dans la sérénité. Il y a d'autres défis à la vie humaine, proprement humaine. Pour l'intellect, eh bien, le bien, c'est la vérité, de trouver la vérité, le vrai. Et le mal, eh bien, c'est d'être dans l'erreur, de se tromper. Pour le volontaire, ce qui est le bien, eh bien, c'est le bon, la vertu, l'agir bon. Et le mal, c'est la faute morale. Alors vous voyez que le mensonge, je l'ai mis en parenthèse parce que c'est une erreur, mais qui est plus ou moins voulue, etc. Donc il y a évidemment un dégradé, hein, qu'on peut observer. Je ne parle pas pour l'instant de l'erreur psychologique, mais j'en dirai un mot parce que c'est très important. Et, par parenthèse, c'est une de nos trouvailles à nous, je dirais, de situer dans ce triangle ce que nous appelons l'erreur psychologique. C'est un outil très important de pouvoir définir, hein, ce qu'est une erreur, non pas intellectuelle, mais psychologique. Pour le spirituel, eh bien, le bien, c'est l'amour, au sens le plus élevé du terme, et le mal, c'est le péché. Alors, je vais d'abord essayer de faire une petite distinction entre la faute morale et le péché. Vous allez voir, je dirais, vraiment l'apport spirituel, hein, l'apport de la foi, de la révélation, à la structure humaine. Il y a une différence entre le péché et la faute morale. Même si c'est la même chose, plus quelque chose. Dans quel sens? Écoutez, le péché, c'est un concept théologique. En philosophie, on ne parle pas de péché, en psychologie, on ne parle pas de péché. Mais bien sûr, le péché que fait un chrétien et qu'il appelle un péché et qu'il va confesser, dont il se repent, etc., à vue humaine, c'est aussi une faute morale. C'est une faute morale, mais pour le chrétien, qui a la foi, et donc qui est en présence de Dieu, qui est en présence de sa grâce et de son pardon, etc., eh bien la faute morale est plus qu'une simple faute morale, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Si un incroyant est honnête, il se sait faillible, il se sait fautif, dans certains cas, il se sait responsable de tel adultère, par exemple, qu'il commet, ou qu'il a commis, il peut s'en sentir responsable, il sait que c'est une faute morale, il n'y a pas besoin de Dieu pour savoir qu'il y a des fautes morales. Parfois certains pensent, des chrétiens aussi pensent, que si on n'a pas la foi, on est immoral. C'est faux. L'être humain, avec sa raison, normalement découvre une loi morale. Et il a envie de tendre vers le bien moral. Il n'y a pas besoin de Dieu pour ça. Mais Dieu, évidemment, avec sa révélation, ajoute beaucoup à cette recherche naturelle de la raison humaine de vouloir faire le bien. Si donc l'incroyant fait une faute morale, eh bien, il peut la reconnaître, s'en sentir responsable, vouloir s'améliorer, vouloir ne plus le faire, etc. Mais pour le chrétien qui commet cette même faute morale, cette faute morale, c'est bien une faute morale pour le chrétien aussi, mais prend une nouvelle dimension dans la mesure où il a la foi et dans la mesure où il sait que ce qu'il fait, eh bien, il le fait par rapport à des frères et sœurs qui sont autour de lui, par rapport à son épouse avec laquelle il s'est engagé par le sacrement, et que s'il la blesse, il blesse Dieu aussi. Et aussi, non seulement cela, mais il sait qu'il peut être pardonné et que par la grâce de Dieu, il peut se repentir, être contrit et se convertir. Donc on n'attend pas d'un incroyant qu'il se convertisse, entre guillemets, hein, pour être précis dans les mots, on attend qu'il s'améliore. Mais d'un chrétien, on attend qu'il s'améliore, mais aussi qu'il se convertisse du fond du cœur, par la grâce de Dieu. Donc voilà, ça c'est, je crois, par exemple, une différence que je trouve importante à signaler et qui montre bien la différence entre ben, le philosophe moraliste hein, et le spirituel. Une erreur psychologique. Qu'est-ce que c'est une erreur psychologique? Vous voyez que je l'ai mise juste entre le psychisme et la raison, et aussi un peu entre le bien et le mal. Bien, prenons une erreur psychologique, une maman gâte son enfant. Elle gâte son enfant, elle lui donne trop de choses, trop de bonbons, trop de jouets, etc. Eh bien, ça peut être une erreur psychologique. Mais c'est une erreur qui n'est pas intellectuelle. Vous n'allez pas lui faire une démonstration logique, philosophique, que ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce qu'elle, avec son bon cœur, avec son amour, son psychisme, eh bien, elle croit que c'est ça qu'il faut faire. Elle se trompe peut-être, mais en voulant faire le bien, elle fait le mal. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? C'est entre le psychique et la raison. Vous avez beau lui faire la démonstration, elle dira « Oui, mais mon cœur dit autre chose, donc je ne parviens pas. Hein » Et puis vous dites « Oui, mais c'est mal. Oui, mais c'est mal, mais moi je trouve que c'est bien. » Donc et l'enfant dit « Oui, oui, c'est très bien. Hein » Donc, voilà, l'erreur psychologique, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte à un autre niveau que le niveau purement intellectuel. Alors j'ai mis aussi dans la colonne de droite les sortes d'amour. Alors l'amour, tout le monde en parle, tout le monde le chante, c'est très bien. Mais je trouve qu'il y a intérêt à distinguer différentes sortes d'amour. Et alors j'ai pris quatre mots grecs qui appartiennent à la tradition philosophique et spirituelle de la culture grecque. Storgé, tout en bas, eros, philia, agapé. Tous ces mots peuvent se traduire par amour. Mais ce sont des sortes d'amour très différents. L'amour storgé, c'est l'amour, par exemple, entre des personnes de la même famille. On est lié par le sang, c'est quelque chose de très naturel. Hein, la maman qui, ours qui défend son petit ourson, eh bien ça c'est la storgé. Hein. Elle est vraiment tout entière, ce sont ses tripes, hein, elle veut défendre son ourson. Eh bien, les êtres humains sont comme ça aussi avec les gens de leur famille. Hein. C'est quelque chose de très immédiat, de très naturel. L'éros implique davantage, non pas une expérience de sécurité, d'appartenance, mais une expérience de plaisir, qui nous oriente vers ceux qui peuvent nous procurer ce plaisir et grâce auquel nous intégrons nos pulsions au sens large. C'est au niveau du psychisme. L'éros se trouve au niveau du psychisme. La philia, c'est l'amitié. Alors l'amitié demande un choix. On devient l'ami de quelqu'un, on se choisit un ami parce qu'on a décidé de le faire, qu'on a des bonnes raisons de le faire. Bon, il y a évidemment sans doute un peu de psychisme qui joue, peut-être même un peu de storgé, mais je dirais la philia, c'est quelque chose de deux personnes qui se choisissent et qui décident de vivre une amitié. Alors on ne décide pas toujours comme ça, comme dans un contrat bien sûr, hein, mais c'est volontaire. Une amitié, si on ne décide pas de l'entretenir, eh bien elle se perd. Il faut vouloir rencontrer ses amis, hein, sinon, voilà, ça s'éteint un petit peu, ça s'essouffle. L'agapé, eh bien, c'est l'amour que nous propose l'Évangile, l'amour que chante l'hymne à l'amour de saint Paul en 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne, il supporte tout, etc. C'est un amour impossible pour l'homme. Ce n'est possible qu'avec Dieu. C'est le couronnement de tous les autres amours, qui s'intègrent, là de nouveau ils ne s'opposent pas, hein, comme le corps et l'intelligence ne s'opposent pas, au psychisme, etc. Toutes ces dimensions ne s'opposent pas, mais sont intégrées l'une dans l'autre, et l'agapé couronne, mais d'une certaine manière c'est un amour sans égoïsme, un amour vraiment désintéressé, qui est prêt au sacrifice, qui se prend en toute liberté. Et celle-là, je dirais théologiquement, des gens comme Grégoire de Nyssa ou Karl Barth disent que cet amour agapé est impossible sans la grâce. Sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu. C'est un amour humano-divin. C'est, quand nous vivons cet agapé, c'est le moment où Dieu nous divinise. Hein, il nous permet d'aimer comme lui aime. Comme lui nous a montré qu'on peut aimer. Nécessité au nom de la quatrième dimension spirituelle. Alors certains pourraient dire, bon mais, vous savez, votre esprit là, hein, c'est un petit annexe là au-dessus. Moi je ne trouve pas que c'est très utile. Alors voilà, je crois que le rationaliste, il est dans les deux triangles là du centre, il est celui du dessus, hein, où il y a le corps, le psychisme et la raison. Et il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas d'esprit, pas de pneuma. tout est dans l'intelligence. Voilà, c'est un rationaliste. Eh bien, je pense que l'esprit n'est pas un petit chapeau qu'on va mettre au-dessus, hein, du triangle à trois strates, un petit chapeau qui va tenir juste sur la pointe, là, hein. Mais je crois que quand on ajoute, comme sur le dessin en dessous, là, quand on ajoute la quatrième dimension de l'esprit, c'est toute une bande qui longe le triangle que j'avais dessiné auparavant, qui est transformée. Parce qu'il y a une dimension spirituelle de l'intelligence, une dimension spirituelle du psychisme, une dimension spirituelle du corps qui apparaît lorsque on vit de l'esprit. Alors bien sûr, on ne cesse pas de vivre le petit triangle, mais quand on accepte, quand on vit cette quatrième dimension, on vit aussi les trois autres différemment. Voilà, c'est ce que veut illustrer, hein, à ma manière, ce dessin. Et enfin, pour terminer, avant de donner la parole à Dominique, notre cours, comme je l'ai dit, sera orienté tout au long du semestre sur une mise en évidence de la capacité relationnelle des personnes humaines, entre elles, la capacité relationnelle. Vous verrez lorsque Dominique vous parlera de la systémique, hein, où se trouve l'inspiration de cette option que nous prenons. Vous allez retrouver cette insistance dans tous nos cours, je crois, aussi bien au niveau spirituel, les relations, qu'au niveau psychologique. Alors, les quatre dimensions dont je viens de parler, on peut évidemment les envisager pour un individu, pour une personne isolée, de dire, tiens, moi j'ai ces quatre dimensions, il faut que ça circule, que ça s'harmonise, très bien, bon, ben, je suis moi en moi-même et il faut que ça fonctionne. Mais justement, notre point de vue, c'est que ça ne fonctionne jamais si ce n'est en relation avec les autres. Et c'est pourquoi j'ai dessiné deux triangles côte à côte, en montrant comment, eh bien, chaque dimension peut correspondre à la dimension parallèle chez l'autre. L'être humain, évidemment, cherche à être unifié en lui-même, mais il l'est davantage lorsque, dans une relation avec une autre personne, ces différentes dimensions clipent, je dirais, hein, opèrent un clipage à tous les niveaux. Alors, par exemple, dans l'union du couple, bien sûr, mais aussi dans l'amitié, dans la fratrie, etc., nous nous relationnons à l'autre avec toutes nos dimensions, avec le corps, avec le sentiment, avec l'intelligence, avec l'esprit. Il n'y a de relation profonde, complète, durable dans le couple, par exemple, que si les conjoints sont unis l'un à l'autre à chacun des quatre niveaux. C'est-à-dire que le corps de l'homme et réciproquement celui de la femme sont attachés à l'autre. Le psychisme de l'un est attaché au psychisme de l'autre et réciproquement. Leurs intelligences sont également unies au niveau qui les concerne. Ce sont des personnes intelligentes qui réfléchissent, qui veulent, qui prennent des décisions ensemble. Il faut que ce soit aussi en harmonie. Et bien sûr, les esprits, au niveau que nous avons défini de l'esprit, comme ouverture à la transcendance, aux valeurs comme l'amour, comme Dieu, etc., la personne de Dieu, eh bien, si de nouveau les deux esprits peuvent communier à ce niveau-là, leur union est plus parfaite. J'ai mis quelques références bibliques là, Genèse 2, 24, Matthieu 19, 4, 6. Parfois on lit dans la Bible, l'homme et la femme ne doivent faire qu'une seule chair. Alors on dit, ah bon, on ne doit faire qu'une seule chair, et seulement ça, ou bien il y a plus, hein? Mais non, il y a plus évidemment, mais c'est une manière de dire, hein? Une manière d'englober le tout. Et puis je crois que de toute façon, dans le Nouveau Testament, et chez saint Paul en particulier, on est beaucoup plus précis que cela. Hein? Il nous dit d'être, il recommande au couple d'être un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4, 4. Hein? Un seul corps et un seul esprit. 1 Corinthiens 7 également, vous pouvez aller voir là, hein, comment saint Paul essaie de comprendre à la fois l'union du corps et l'union des esprits comme étant proportionnés et dépendants l'un de l'autre. Ça ne se fait pas de manière indépendante. Et j'indique pour terminer, limite d'un clipage trop unilatéral, par exemple si un couple, eh bien, est uniquement uni au niveau du physique, eh bien, probablement que les autres dimensions, à ce moment, vont faire en sorte que cette union ne se poursuivra pas. Hein. Mais c'est la même chose s'ils sont unis seulement au niveau spirituel. Hein. Un mariage où on se marie uniquement pour prier ensemble, ben, il est possible que ça ne marche pas très bien non plus à moyen terme. Hein. Il faut que toute la dimension soit impliquée. Et c'est pourquoi, parfois, nous allons parler de l'adolescence, par exemple, eh bien, certains jeunes s'engagent dans des aventures amoureuses basées trop exclusivement sur une dimension, sur le corps, par exemple, sur la sexualité. Et ça ne permet pas, si les autres dimensions ne sont pas impliquées, ça ne permet pas un véritable bonheur, un véritable lien. Et voilà, ça ne marchera pas. Alors parfois, très curieusement, eh bien, on finit par, c'est un petit exemple, hein, je ne dis pas que ça arrive tous les jours, mais après avoir cherché l'amour fou, eh bien, finalement, on épouse une amie d'enfance, hein, quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, hein, et où il y avait une amitié, voilà, une amitié déjà ancienne, et parce qu'à une dimension plus de l'amitié, eh bien, on voit qu'on peut englober l'entièreté de l'amour de la personne. Hein. On n'attend pas simplement... voilà, le coup de foudre, etc. Mais en disant cela, j'anticipe déjà sur les cours 8, 9 et 10, et c'est pourquoi je vais laisser la parole à Dominique.
Voilà, bonsoir à tous. Je vais poursuivre l'exposé en vous parlant des grandes théories qui sont à la base de la psychiatrie et en particulier des différentes psychothérapies. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire un tout petit mot de qui je suis pour que vous sachiez un peu à partir de quelle expérience je vous parle. Donc je suis psychiatre et plus particulièrement pédopsychiatre. Donc comme vous le savez sans doute, la psychiatrie est une spécialité qu'on fait après les études de médecine. On peut choisir à l'intérieur de la psychiatrie d'être pédopsychiatre, donc de s'occuper principalement d'enfants, d'adolescents, de familles, ou on peut choisir la psychiatrie d'adultes. Quand on devient pédopsychiatre, on peut voir des adultes aussi, hein, on s'occupe aussi des parents, bien sûr, et on peut voir des adultes, mais voilà. Alors, quand on est psychiatre, on n'est pas forcément psychothérapeute. Si on veut être psychothérapeute en plus, on doit faire des formations spécifiques à la psychothérapie. C'est vrai aussi pour les psychologues. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme en psychologie qu'on est psychothérapeute. Il y a à peu près 450 sortes de psychothérapies différentes. Et il y a trois écoles de psychothérapie qui sont reconnues par les universités qui proposent des formations spécifiques. Alors, il y a l'école de psychanalyse, il y a les formations en systémique. La systémique est à la base des thérapies de couple, des thérapies de famille, d'une réflexion sur la santé des groupes aussi, les pathologies, la santé relationnelle. Et les thérapies cognitivo-comportementales. Voilà. Personnellement, j'ai choisi de faire une formation en psychanalyse d'enfants et d'adolescents et une formation en systémique. Alors, au début de ma carrière, j'ai travaillé en hôpital pédopsychiatrique à la petite maison à Chastres pendant 17 ans et pendant une petite dizaine d'années, j'ai assumé la direction médicale de cette institution, qui regroupe aussi deux écoles, une école primaire et une école secondaire, qui accueille aussi des enfants et des adolescents externes. Donc ça fait à peu près 120 enfants et adolescents sur une petite commune du Brabant Wallon. Donc voilà, pas toujours simple à gérer. Quand j'ai quitté le travail hospitalier, c'était pour me consacrer uniquement à la psychothérapie en cabinet privé, qui est encore mon activité principale. Mais très vite, on m'a demandé de donner cours à Lumen Vitae, puis à l'IET. Et pour mon grand bonheur. Et c'est depuis 2002 que je suis à l'IET et que donc j'ai découvert et que j'ai commencé à m'intéresser à ce lien entre psychologie et spiritualité, grâce aussi au fait que j'ai pu avoir en psychothérapie des religieux, des religieuses, des séminaristes et des demandes de supervision aussi de supérieurs de communautés religieuses ou des groupes d'intervision de supérieurs majeurs. Et grâce à tout ce travail, j'ai découvert comment la vie spirituelle pouvait être une ressource dans le travail de psychothérapie. Alors, on va on reparlera de tout ça plus en détail et j'aurai l'occasion d'approfondir tout ça avec vous au cours des cours qui suivront aussi. Donc, les grandes théories en psychiatrie, il y a une grande différence entre la manière dont on aborde un problème en médecine et dans d'autres spécialités et en psychiatrie. Donc, quand on travaille comme médecin, on a l'habitude de travailler avec une recherche scientifique d'un savoir positif qui est l'état des connaissances actuelles. Et quand on fait des progrès, il y a un nouveau savoir qui va remplacer le précédent. Donc on cherche quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité scientifique. Quand on aborde la psychiatrie, et particulièrement la psychothérapie, on ne parle plus de savoir scientifique qui va nous dire la vérité ultime de l'homme. On parle de modèle théorique de référence. Et donc on a plusieurs théories, plusieurs modèles théoriques de référence, et c'est très important qu'il y en ait plusieurs. Pourquoi ? Parce que l'objectif d'une théorie en psychiatrie, c'est justement d'élaborer un modèle de référence qui peut aider à comprendre une réalité clinique et à la modifier. Et donc, s'il y a plusieurs théories possibles, ça veut dire qu'on accepte que toujours une partie de la réalité va nous échapper et qu'il n'y a aucune théorie qui peut dire toute la vérité de ce qu'est l'être humain ou de ce qu'est la vérité d'une relation. Alors, si les théories peuvent nous aider à comprendre le psychisme humain en nous donnant un cadre de réflexion et de compréhension, elles ne suffisent pas pour le guérir. Parce que de nouveau, une grande différence avec d'autres disciplines dans la médecine, c'est qu'un processus de psychothérapie, ce n'est pas l'application d'un savoir sur une personne, sauf peut-être quand on parle de médication. Mais le travail thérapeutique, il va se faire à partir de la relation entre le thérapeute et le patient. Mais c'est le patient qui va se guérir lui-même. C'est la famille qui va transformer ses relations en s'appuyant sur la relation avec le thérapeute. Donc on n'est pas dans un modèle où un spécialiste agit sur vous pour vous guérir. C'est un travail conjoint entre le thérapeute et le patient. Et donc ces modèles théoriques, ils ont comme fonction de rendre compréhensible une réalité psychologique qui est parfois difficile à comprendre du premier abord. Si quelqu'un, je pense à une religieuse qui était venue me consulter parce qu'elle ne dormait plus, parce que toute la nuit elle faisait des jeux de sudoku. Bon. Alors, elle ne comprenait pas elle-même pourquoi elle faisait ça, parce qu'elle était mal le lendemain. Et comme ça, a priori, ça paraît étrange. Elle avait complètement perdu sa liberté. Si on n'a pas un bagage théorique pour essayer de comprendre, pour poser les bonnes questions, on ne va pas pouvoir, avec le patient, développer cette première étape du travail psychothérapeutique, qui est de développer ensemble une vision du problème. Qu'est-ce que je peux vous proposer comme compréhension de ce que vous me dites ? Mais cette étape de compréhension ne suffit pas à transformer le problème. Donc le but des théories, ça va être aussi de stimuler la créativité et du thérapeute et du patient ensemble. Une créativité relationnelle pour modifier une réalité qui fait souffrir. Le but des théories aussi, c'est d'aider le psychothérapeute à prendre distance, à ne pas être pris de plein fouet par ce qu'on va lui raconter, qui peut être angoissant, qui peut être préoccupant. Le cadre théorique de la formation permet d'avoir une distance émotionnelle par rapport au patient et de l'écouter aussi avec son intelligence et avec cette possibilité de créativité toujours. Alors on peut classer les théories en deux catégories. Là je reprends la proposition du professeur Lanteri. Il y a celles qui vont chercher à comprendre le psychisme humain en analysant ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, et celles qui vont chercher à comprendre le psychisme à partir des influences extérieures que subit l'homme. Ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, c'est la psychanalyse qui va s'intéresser à ça, à cette vie intérieure, dans sa dimension consciente et inconsciente. Comment s'est construit notre psychisme ? Quelles sont ses lois ? hein, parce qu'on connaît les lois du corps, hein, on sait bien qu'il faut respecter ceci et cela pour que le foie fonctionne bien, ou le cœur, mais le psychisme aussi a ses lois, et les relations aussi ont leurs lois. Si on transgresse les lois relationnelles, si on transgresse les lois du psychisme, eh bien on va tomber malade, ou les relations vont tomber malades. Alors, la psychanalyse, mais aussi tout ce qu'on va appeler la psychiatrie biologique. Hein, donc il y a des psychiatres qui ne sont pas psychothérapeutes, mais qui cherchent au niveau des médications, au niveau du cerveau, au niveau aussi des maladies qui vont provoquer des troubles psychiques, hein, comme par exemple un trouble de la thyroïde va donner des dépressions. Donc ça, il faut savoir aussi que certaines maladies du corps vont avoir des influences sur le psychisme. Alors, quelles sont les théories qui vont s'intéresser aux influences extérieures? Il y a les théories systémiques qui vont réfléchir à comment notre contexte relationnel, nos groupes d'appartenance relationnelle et nos relations peuvent avoir une influence sur notre santé mentale. Et il y a l'ethnopsychiatrie qui va faire le même travail à partir de la culture, de la religion. Hein, qu'est-ce que nos groupes d'appartenance plus larges ont comme influence sur notre santé mentale. Et il y a aussi les théories cognitivo-comportementales qui vont réfléchir au conditionnement qu'on a subi, etc. Mais je ne vais pas entrer dans le détail par rapport à ça. Alors bien sûr, il arrive qu'il y ait des conflits, parfois même importants, entre ces différentes écoles théoriques. Mais les conflits arrivent lorsqu'on a un rapport de croyance à une théorie. C'est-à-dire lorsqu'on se met à croire qu'une théorie est la vérité. Alors, je dirais que nos modèles théoriques peuvent parfois devenir comme une peau identitaire. Quand nos modèles théoriques deviennent une croyance, ils commencent à faire partie de nous-mêmes. Et si on les attaque, on réagit d'une façon très agressive. On va appeler ça les conflits mythiques, les conflits de croyances. Mais normalement, si on a une distance suffisante par rapport à un modèle théorique, ce qui est nécessaire pour pouvoir bien travailler en psychothérapie, ça ne se passe pas. Hein. On peut réfléchir, se laisser interpeller, réfléchir à un autre modèle qui pourrait mieux convenir aux patients, etc. Mais cette notion de théorie qui devient une vérité ininterrogeable, c'est une notion importante parce qu'elle est à l'origine d'un conflit important qui a eu lieu et qui existe encore un petit peu entre la foi et la psychanalyse, entre l'Église et les écoles de psychanalyse. Donc on va aussi essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Il y a eu aussi des conflits, il y en a toujours un peu, entre psychanalyse et systémique. Mais bon, je dirais que par rapport à ce que j'ai connu il y a 40 ans, ça a quand même beaucoup évolué dans le sens positif. Le conflit entre psychanalyse et foi, aussi à l'intérieur du milieu chrétien, mais peut-être pas avec par rapport à la laïcité, par exemple, ou ceux qui n'ont pas du tout une appartenance religieuse. Alors, l'invention de la psychanalyse par Freud au XIXe siècle a été une véritable révolution dont notre culture porte les empreintes, et ça a été une révolution vraiment très positive pour beaucoup de choses, puisqu'elle a complètement changé la manière de soigner les malades mentaux. Il faut dire que les traitements psychiatriques avant Freud, c'était quand même assez barbare. Les asiles psychiatriques, c'était vraiment l'horreur. Hein. Les personnes étaient séparées en malades et bien portants, ou bien on était un malade psychiatrique, ou bien on était un bien portant. Freud a complètement révolutionné cette pensée par deux choses. D'abord, la découverte de l'inconscient. Hein. Là, il a amené aussi des problèmes au niveau des conceptions du bien, du mal, de la morale, etc. Puisqu'il a montré qu'en fait, la volonté n'est pas toute puissante. Hein. Donc la personne qui joue au sudoku toute la nuit, elle a perdu sa liberté. Hein. Nous pouvons avoir des comportements qui nous dépassent et notre volonté ne suffit pas à résoudre le problème. Hein. Donc Freud a développé toute une théorie explicative pour qu'on puisse avoir accès au sens de ces comportements et comprendre de l'intérieur quelle est la souffrance psychique qui va provoquer ce genre de pulsions ou de comportements bizarres. La séparation entre les malades et les bien portants s'est donc atténuée grâce à cette compréhension du fonctionnement psychique, parce que chacun peut se découvrir avec des conflits intérieurs, des incohérences entre ce qu'il pense et ce qu'il fait, des moments d'angoisse, des moments où on a l'impression de perdre le contrôle de son psychisme, de son humeur, de ses émotions. Et donc chacun peut se découvrir fragile et appelé à réaliser en lui-même un travail d'unification, de transformation de soi, de réconciliation, de travail des relations, etc. Et donc, avec la psychanalyse, on découvre qu'il n'y a pas d'un côté les malades, de l'autre côté les bien portants, mais que nous devons travailler notre psychisme pour qu'il reste normal, hein, et que nous devons travailler nos relations pour qu'elles restent pleines de vie. Ça ne se fait pas tout seul, c'est comme pour le corps. La psychanalyse nous a aussi appris beaucoup de choses sur le développement de l'enfant. Hein, on va en parler notamment au cours prochain et encore dans les autres cours à propos de l'adolescent, sur le rôle des parents, sur l'éducation. Donc tout ça, c'est des choses extrêmement positives, mais la psychanalyse a aussi ses croyances. Elle s'intéresse à la vie intrapsychique et elle fonctionne avec l'idée que si on aide quelqu'un en individuel à prendre conscience de ce qu'il habite dans sa vie intérieure, à se comprendre mieux, eh bien ses relations vont aller mieux aussi. Et les systémiciens ont les croyances inverses, que si on travaille sur le milieu relationnel, sur la famille, sur les relations, et qu'on arrive à redonner à cette famille une créativité pour sortir des symptômes répétitifs, eh bien chaque membre de la famille va se sentir mieux. Bon, c'est pas tout à fait faux, ni l'un ni l'autre, mais c'est pas si simple non plus. Donc il y a des questions à se poser au niveau des indications. Quand est-ce qu'il faut travailler d'abord sur les relations, sinon ça ne servira à rien? Quand est-ce qu'il faut travailler en individuel? Là, c'est un systémicien qui nous a éclairé là-dessus, c'est Robert Neuburger, qui dit que quand la demande, la souffrance et les symptômes sont chez la même personne, on peut travailler en individuel. Bon, par exemple, si quelqu'un me téléphone en disant « mais je ne dors plus, je fais des cauchemars, j'ai des angoisses, je ne me sens pas bien, est-ce que vous voulez bien m'aider ?» Je peux voir cette personne en individuel. Si une maman me téléphone en disant « mon ado, l'aîné de mes fils fait des bêtises, il est agressif et je n'en dors plus et tout le monde souffre dans la famille, est-ce que vous voulez bien voir mon fils ?» Si je vois le fils, je n'arriverai à rien du tout. Donc je dois voir au minimum la personne qui demande avec la personne qui a le symptôme. Et puis probablement je devrais voir tous ceux qui souffrent du symptôme. Parce que si je vois l'ado tout seul, il va me dire « moi j'ai pas de problème, moi c'est ma mère qui a un problème ». Donc voilà. Alors, pour un psychothérapeute croyant, la vie spirituelle s'incarne dans la vie psychique. Ça veut dire qu'on n'a pas une petite bulle spéciale pour notre vie spirituelle. Ça fait partie de notre vie psychique et on va la travailler et l'analyser comme une vie relationnelle intérieure. Nous avons une vie relationnelle intérieure, j'espère tous, par rapport à toutes les personnes auxquelles nous sommes attachés. Par rapport à nos parents, par rapport à notre conjoint, par rapport à nos enfants, il y a plein de monde qui habite dans notre cœur, dans notre psychisme. Et donc on peut travailler sur ces relations intérieures, aussi en thérapie individuelle. Si on est par exemple en colère contre son mari ou contre son fils, on peut travailler cette colère en thérapie individuelle sur un plan relationnel aussi. Bon. La vie spirituelle, notre relation avec Dieu ou avec un Dieu en plus qui est relationnel lui-même, puisque comme chrétien on croit en un Dieu trinitaire, donc la Trinité c'est quand même des relations. Donc cette vie relationnelle, notre vie relationnelle à Dieu, à la Trinité, à la Vierge Marie, aux saints, etc., ça fait partie de notre monde intérieur. Et on peut être en dispute avec Dieu. Parfois, on est en dispute avec le Père, pas avec le Fils. Bon, l'Esprit-Saint, j'ai jamais entendu qu'on était vraiment en dispute. Parfois, on ne sait pas très bien qui il est. Mais voilà, hein, je me souviens d'une patiente qui était en dispute avec Dieu, mais la seule personne à qui elle parlait, c'était Sainte Thérèse de Lisieux. Bon. Donc sa vie spirituelle s'appuyait sur ce lien-là. Hein. Mais c'est un lien qui l'a énormément aidé à progresser sur le plan psychique. Donc voilà, on va travailler avec l'idée que notre vie spirituelle fait partie de notre vie intérieure en tant que vie relationnelle intérieure. Bon, le problème, c'est que pour Freud, il s'agissait d'une illusion. Donc la foi, la religion, c'était une illusion qui maintenait l'homme dans un état de névrose infantile. Donc, pas étonnant, évidemment, conflit mythique avec l'Église. Hein, ça ne pouvait pas être autrement. Surtout qu'il présentait son athéisme comme faisant partie intégrale de ses théories. Alors, il y a un auteur qui m'a beaucoup aidé à sortir de ce conflit mythique qui était quand même pas facile à vivre pour moi comme jeune psychiatre en formation. Hein, quand on est croyant qu'on doit étudier la psychanalyse et qu'on vous présente l'athéisme comme faisant partie intégrante de la théorie, voilà, c'est pas facile. Je ne savais pas trop comment résoudre le problème intellectuellement. Et c'est Marie Balmary, dans son livre L'homme au statut, Freud ou la faute cachée du père, qui m'a la première aidée à sortir de, enfin à réfléchir intellectuellement et à comprendre qu'est-ce qui se passait par rapport à cette position freudienne qui a été adoptée par beaucoup de psychanalystes par la suite. Lacan aussi était athée. Alors je crois que en ce qui concerne l'athéisme, Freud était dans un rapport de croyance de type identitaire. Ça veut dire que là, il était collé par rapport à quelque chose qui faisait partie de son psychisme à lui, qu'il ne pouvait pas remettre en question. Et c'est ce que Marie Balmary va essayer de nous montrer dans son livre, en essayant de... En prenant l'hypothèse que, bien oui, quand il y a un collage entre nos modèles théoriques et nous-mêmes, hein, et que nous mettons à croire que nous détenons la vérité sur quelque chose, c'est qu'il y a un enjeu psychique important sur le plan de l'angoisse et du désir. Hein. Donc Freud disait, ceux qui croient en un Dieu père n'ont pas fait le deuil d'un papa qui va les protéger, d'une divine providence qui va les aider, etc. Ils restent dans un état de dépendance infantile. Freud disait ça. Mais Marie Balmary va nous montrer que finalement l'athéisme de Freud est aussi une croyance. Hein. Pourquoi est-ce qu'il avait absolument besoin de croire que Dieu n'existait pas, donc de tuer Dieu quelque part? Eh bien, parce que ça avait un sens dans son histoire à lui. Parce qu'en tuant Dieu, en disant « il n'existait pas », il libérait, pensait-il inconsciemment sans doute, son père d'une faute qu'il avait commise. Et c'était pour que son père puisse échapper à une condamnation divine qu'il avait besoin de dire « mais non, Dieu n'existe pas ». Alors je vous raconte un peu l'histoire pour terminer, hein, parce que là on est dans de la systémique transgénérationnelle pour l'histoire de Freud, hein, mais qui nous libère aussi par rapport à son modèle théorique, puisque finalement c'est grâce à ses théories qu'on peut comprendre sa propre histoire. Hein. Et il faut quand même savoir que Freud est le seul psychanalyste qui n'a jamais été psychanalysé dans une relation à quelqu'un d'autre. Hein. Il s'est auto-psychanalysé, mais il n'a jamais fait de psychanalyse, donc il a dû se débrouiller tout seul. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le père de Freud, Jacob Freud, qui était un juif croyant, aurait été marié 3 fois, et non 2 fois comme le pensait son fils. Donc, Sigmund Freud a toujours cru qu'il était l'enfant de Amalia, la 2e femme de son père. Mais, après une enquête quasi policière, Marie Balmary découvre qu'il y a une 2e femme, Rebecca, qui se serait suicidée quand elle a appris que Jacob Freud l'avait trompée avec Amalia et que Amalia était enceinte. Donc Jacob et Amalia donnent naissance à Sigmund Freud. Sigmund, c'est Salomon, son nom. Et avant de mourir, Jacob Freud va offrir à Sigmund une Bible qu'il a découpée et recomposée et qui commence avec l'histoire de David. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire de David, bon, la mort d'Uri, David est, qui est séduit par Bethsabée. Uri est dans les combats, Bethsabée est enceinte, et David essaye que Uri meure au combat, et l'enfant de Bethsabée et David meurt. C'est compris comme la punition divine. Deuxième enfant, Salomon. Jacob et Amalia, responsables de la mort de Rebecca, vont appeler leur premier fils Salomon. Et Salomon, Sigmund, va vivre. Mais le deuxième fils va mourir, Julius. Bon. Et puis, on retrouve des écrits de Freud devant le tombeau de Jules II, devant la statue de Moïse, des articles qu'il va écrire qu'il ne signera pas, pour, où il parle des tables de la loi que Moïse aurait cassées ou pas cassées, etc. Et donc l'hypothèse de Marie Balmary est que vraiment, Freud, inconsciemment, parce que je ne suis pas sûre qu'il a pris conscience de tout ça, aurait vraiment dû nier la religion pour sauver son père d'un dieu ou d'un Moïse qui l'aurait condamné à cause de ses fautes. Mais en se coupant de ce système symbolique qui était celui de ses ancêtres, de ce système religieux qui avait donné vie à toute sa lignée, il s'est aussi coupé, évidemment, d'une source de vie et de pardon, parce que l'histoire de David, elle ne s'arrête pas à la mort du premier fils. David devient un grand homme, il se réconcilie avec Dieu, etc. Et donc, voilà, il y a quelque chose chez Freud qui est resté bloqué au niveau inconscient et qui ne lui a pas permis de retrouver une foi qui aurait reconstruit une confiance psychologique possible. Voilà, ça c'est l'hypothèse de Marie Balmary, qu'elle était aussi avec une partie des théories freudiennes, où on peut quand même s'étonner que quelqu'un qui a été éduqué dans le judaïsme aille chercher plutôt des mythes grecs comme référence, le mythe d'Édipe par exemple, et qu'en plus quand il prend le mythe d'Édipe plutôt que l'histoire de Joseph par exemple, il aurait pu expliquer beaucoup de choses au niveau de ce qui se passe au niveau du psychisme à partir des écrits de l'Ancien Testament. Il ne le fait pas, il prend le mythe d'Édipe pour expliquer les désirs qu'on va appeler désirs édipiens, le petit garçon qui veut à partir de 3 ans épouser sa maman, qui devient rivale de son père, la petite fille qui veut se marier avec son papa, qui est rivale de sa mère, enfin toutes ces rivalités, etc., qui sont réveillées à l'adolescence, cette difficulté que l'enfant et que l'adolescent ont de passer de relation duel à relation triangulaire. Bon, on reviendra là-dessus. Mais voilà, il prend le mythe d'Édipe. Or, l'histoire d'Édipe, il la commence avec Édipe, sans parler de la génération précédente. Or, qu'est-ce qui s'est passé pour Édipe? Oui, il a tué son père, il a épousé sa mère. Mais il ne savait pas que c'était son père, il ne savait pas que c'était sa mère. Et donc, l'histoire d'Édipe, est-ce que c'est vraiment l'histoire d'un désir inconscient pour sa mère et d'une rivalité avec son père? En fait, ce qui s'est passé à la génération précédente, et je vais terminer là-dessus, c'est que Laios, le père d'Édipe, était orphelin, très jeune, et qu'il a été adopté Pélops, le roi Pélops, qui l'a accueilli comme son fils. Mais Laios est tombé amoureux de son frère adoptif, Chrysippe, l'a séduit, a eu des relations homosexuelles avec lui, et Chrysippe, de honte, s'est suicidé. Donc Laios a été banni, et l'oracle a dit que sa punition, c'est qu'il ne pouvait pas se marier, et qu'il ne pouvait pas devenir père. Il s'est marié quand même et il a paniqué quand il a eu un enfant. Il ne lui a pas donné de nom, il l'a abandonné sur une colline et il lui a lié les pieds. Et ce sont des bergers qui ont trouvé ce bébé avec les pieds enflés et qui l'ont appelé Édipe, qui veut dire pied enflé. Voilà. La suite de l'histoire, c'est ce que Freud raconte. Mais donc, il s'agit bien d'une histoire de nouveau, comme l'histoire de Freud, transgénérationnelle. Où quand on se limite à une histoire individuelle, on ne peut pas comprendre ce qui nous habite. Et ça, on verra aussi que ce qui nous habite dans nos difficultés psychiques, c'est aussi des choses parfois qui ne nous appartiennent pas individuellement, mais qui viennent aussi de l'histoire des générations qui nous ont précédées. Voilà, je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui.